Salut à tous et bienvenue dans Graffiti Cinéma, encore une très belle année 2023. Cette semaine, dans notre mois qui parle des passions et du cinéma, on vous propose une de nos émissions collector divisée en deux parties. Norbert Moutier, le roi de la série Z en France, celui qui a fait des films Une Passion et Une Vie en dépit de tout, et bien nous proposons le premier épisode sur deux d'une émission qui lui consacrait une émission hommage ce mois de janvier voyant l'anniversaire de sa disparition. C'est parti pour le premier épisode et c'est parti aussi pour deux semaines en sa compagnie. On vous souhaite en tout cas de découvrir une passion hautement contagieuse pour le cinéma.
C'est magnifique.
À préciser que cette émission a été réalisée et conçue dans le cadre des confinements. Vous entendrez pas mal de références que je fais lors des entretiens à l'enfermement et évidemment au couvre-feu. C'est dans ce contexte-là qu'il faut écouter cette émission. Voilà, bonne écoute à tous. C'est parti pendant deux semaines et on vous retrouve juste après pour des émissions inédites.
Il n'y a pourtant pas eu de guerre par ici. Tout ça vient, tout c'est mort.
Pas de guerre officielle.
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité.
Je suis sœur Eva. Voici sœur Manigne. Nous avons été appelés pour aider ces malheureux à mourir dignement.
Quels malheureux?
Comment? Vous n'êtes pas au courant? Tout le personnel contaminé, il ne sont plus que trois, et il en reste si peu. Et les survivants qui n'en finissent pas de mourir, oh, c'est sans appel.
Mais on ne les a pas évacués dans les hôpitaux?
Le ciel en avait décidé autrement. Mais non, ils étaient tous condamnés.
Et nous, on risque pas d'être contaminés?
Non, à moins que...
À moins que?
Que vous ayez avec eux des ébats, disons des ébats d'ordre...
Il n'y a pas de danger.
Je suis certain que vous êtes ravis de me voir, j'en suis tellement sûr.
Norbert Georges Vincent Moutier, également connu sous le pseudonyme de Engie Mount, était libraire, éditeur, écrivain, cinéaste et acteur français, né le 17 mars 1941 à Antony et mort le 27 janvier 2020 à Orléans. Derrière cette fiche d'état civil, voici le portrait d'un homme qui a également été réalisateur, scénariste, monteur et encore beaucoup de postes sur des tournages fauchés, mais passionnés, aux titres plus improbables les uns que les autres. Man Mutilator, Dinosaur from the Deep, Trépanator, Hémophilia, en 8 films dont un inachevé, 2 romans, 2 fanzines et des tonnes d'articles, Norbert Moutier devenu une icône peut-être malgré lui, du donquichottisme désintéressé de tous les cinéastes amateurs, qui l'ont lui pourtant amené à tourner jusqu'aux États-Unis pour mettre en scène New York et Las Vegas, et pas seulement pour rencontrer les sosies de Lewis. Alors vous pourriez vous dire que tirer le portrait d'un cinéaste dont un seul film est sorti en DVD, les autres un peu perdus dans les limbes de YouTube, est une forme de folie.
Fou et dangereux.
Fou.
Pourtant pour cette émission, vous n'avez pas besoin d'en avoir vu une seule image.
Ça m'étonnerait.
Ce soir, laissez-vous guider pour un voyage de la série B à la série Z.
On ne pourra jamais financer un tel voyage.
Pour un portrait collégial, certes, avec une qualité téléphone.
Pas de micro, pas de vidéo pour nos rendez-vous. Je préfère cette intimité. D'autant plus que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer.
Avec un son qui coupe quelquefois.
Papa, vous me recevez? Vous me recevez?
Vous ne pourriez pas me lâcher un petit peu?
Mais bon, on a appris à faire avec le confinement.
Laissez-moi sortir! Je veux sortir!
Laissez-moi sortir!
Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ah! Laissez-moi sortir!
En rappelant l'héritage d'un bonhomme, de sa cinéphilie et de sa passion qui est elle, en ce moment, la seule chose qu'on souhaite contagieuse. Norbert Moutier, Une vie pour le cinéma, est une émission montée et préparée par Florian Lien et votre serviteur.
Allez, dépêche-toi, on nous attend!
Allez!
Comme dirait le prophète, Norbert Moutier, qui en consacre notre émission.
Dépêchez-vous! On va pas dormir ici!
45 minutes en partie FM sur RCF Loret et RCF.fr, et en version intégrale sur Spotify et Apple Podcast.
Vite, faut choisir!
Ok, vite!
Graffiti Cinéma, c'est parti!
Ok, très bien!
On vous souhaite une belle rencontre avec celui qui, je cite, a aimé le cinéma de toutes les manières possibles, Patrick Juillard. Norbert Moutier et les fanzines, c'est une grande histoire d'amour. Pour lui, c'est deux fanzines, Le Petit Bédéraste, qui allait chercher les BD disparus en manque d'exposition, et puis également, évidemment, Monster Beast, le plus célèbre et celui qui nous intéresse le plus pour cette émission, créé en mars 79. Maintenant, découvrons ce que disent nos interlocuteurs et nos intervenants sur cette période de fanzine qui était si chère à ses yeux.
Regardez, on dirait qu'il veut parler.
Franck Ecalar, qui était acteur notamment sur Alien Platoon et Dinosaur From the Deep, c'est tout de suite.
Ah, pas de cinéma, allez!
Alors Norbert, c'est un précurseur, c'est un pionnier, donc c'est quelqu'un qui a commencé au début des années 80. Les salles de quartier ne programmaient déjà plus de films gore ni de films bis. Il restait plus sur Paris à l'époque, on avait encore la chance d'avoir le cinéma Le Brady. qui passait en double programme des super séries Z, des super films bis, beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, enfin tout ce qui était plutôt des films qui venaient des pays latins. Et donc on payait à l'époque 17 francs ou un truc comme ça, et on voyait deux films en fait. Et bon, c'était assez délirant, l'ambiance au Brady avec les clochards, les prostituées, les mecs qui dormaient, qui buvaient des packs de crocs, qui bouffaient leur casse-dalle, enfin c'était vraiment du délire.
Si vous voyez un peu moins de ces machins, tout irait beaucoup mieux pour vous.
Et donc je me suis retrouvé dans le milieu cinéphile parisien de l'époque, et j'ai rencontré très vite Norbert, et c'est vrai que Norbert, il avait quand même une place importante à cette époque-là, dans ce milieu-là, ne serait-ce que parce que bon bah il travaillait sur son propre matériau, un fanzine qui était fait à partir de pavés de 13 qu'il était les seuls à avoir. Enfin c'était vraiment, fallait savoir qu'à l'époque en fait, quand on faisait un fanzine, on faisait pas du copier-coller, et donc en fait chacun avait des sources documentaires qui étaient les siennes. Et à l'époque, il y avait des pavés de presse qui tournaient dans les festivals, dans des boutiques spécialisées et auprès d'amateurs qui étaient en relation avec des maisons de production ou avec des réalisateurs. Et donc ce matériel en fait circulait au sein des, on va dire, parmi tous les protagonistes du Franzina. Et Norbert, il avait la chance d'avoir du matériel de première main en fait, puisqu'il avait il était aussi à l'époque, enfin jusque dans les années 80, il était animateur d'un ciné-club de province, et il récupérait absolument tout le matériel promotionnel, et sa mère aussi d'ailleurs, enfin c'était une histoire de famille. C'est comme ça que s'est constituée cette base documentaire que Norbert a fait vivre pendant des décennies. Hein.
Alors là on appelle Alain Jarry, l'ami d'enfance de Norbert Moutier.
Allô ? Allô, je vous écoute. Allô, allô. Ah, il devait être encore en train de vous plier. Plus rien, la liaison est coupée. Essayez encore.
Allô, j'attendais votre queue de fil.
Vite, vite, démarrez.
Vous me disiez en préparant l'émission, il était devenu plus reconnu comme par ses écrits que par ses films, et ça lui allait très bien a priori.
Oui. Ah oui, il écrivait bien, hein. Bon, il avait été le créateur hein, d'un fanzine qui a perduré pendant plusieurs dizaines d'années. Mars 79, le premier numéro. Bon, alors, Monster Beast, il y en a eu deux séries. Hein. Mm-hmm. La première série, bon, il y en a 54 numéros. Bon, au début, c'était cet fanzine assez modeste. Hein. Il y avait qu'une trentaine de pages. Et il y avait plusieurs sujets. Hein. Il donnait des news, notamment sur les nouveautés du cinéma fantastique. Mm-hmm. Et puis, il y avait un sujet principal. Hein. Ça pouvait être un acteur. Hein. Il y en a eu... Dans le numéro 1, je me rappelle, bon, il était consacré à Massiste, hein, Massiste, le héros des Peplum.
Oui, effectivement.
Il y a eu des numéros qui étaient consacrés au film de 4 d'épée italien, il y en avait consacré des acteurs western comme Audie Murphy, Randolph Scott. Voilà. Et puis arrivé à 1992, vu le succès qui était reçu par ce fanzine, bon, il a été décidé de d'étoffer un petit peu le nombre de pages.
D'accord.
C'est passé carrément à des numéros de 150 pages, hein, et avec un seul sujet. Qui pouvait être un thème, le giallo, les films de la Hammer Film, ou alors un acteur. Hein, il y a eu beaucoup d'acteurs américains. Hein, il y a eu encore Randolph Scott, hein, qui était l'acteur favori de Norbert Moutier. Il y a eu Audie Murphy, il y a eu Rolfing, il y a eu Robert Taylor. Enfin, et là, il y en a eu 92 numéros.
D'accord.
Et il y a trois numéros qui n'ont pas été achevés parce que bon, Norbert n'était plus tellement en forme, bon, il avait plus tellement envie de s'en occuper, quoi. C'est resté abandonné, quoi.
Bah, il doit être dans un carton, on espère les retrouver un jour.
Ils sont chez moi parce que j'en suis l'auteur.
Alors c'est vrai que effectivement, on en avait parlé. Alors, vous avez beaucoup d'écrits vous-même que vous avez conservés de cette époque-là. Et vous cherchez à les remettre en avant, à les ressortir, à faire un fanzine ou à ressortir sous quelle forme?
Alors il y a les élites. Bon, il y a beaucoup de ces lecteurs, hein, bon, moi, qui aimeraient que ça continue, bon, qui m'ont contacté. Bon, moi de mon côté, bon, je commence à prendre de l'âge, hein. Bon, c'est du boulot, c'est du boulot. Je sais pas. Bon, je suis un petit peu tenté de terminer, d'essayer de sortir les trois numéros qui sont en souffrance. Hein, il y en a un sur John Payne, il y en a un sur Sterling Hayden, et il y en a un, c'est Zorro au cinéma.
Hein. Ouais, c'est pas rien quand même.
Pour rien cacher, hein. Alors je sais pas ce qu'il en est, hein. Et puis bon, bah, pour l'instant, j'ai surtout un projet qui me tient extrêmement à cœur. Et ben, c'est d'en faire un qui va s'intituler Norbert Moutier, tout simplement, hein.
Oui, voilà. Parce qu'avec tous les témoignages qu'on croise, et puis, y compris le vôtre, on rencontre vraiment une personnalité très, très attachante, et puis vraiment, quelqu'un qui gagnait d'être connu, quoi. Il est vraiment une belle personne, qui faisait du bien, à tous ceux qui l'ont rencontré, quoi, en tout cas.
Oui, c'était quelqu'un de très sympathique, en plus, hein. Très sympa, très ouvert, hein. C'était, y avait pas de problème avec lui, hein. Allô?
Ne quittez pas. Donne-moi ta nana, on va leur faire danser la java.
Allô?
Vous êtes toujours en ligne? Je fais toujours un petit peu d'exercice le matin.
On est donc avec Lucas Balbo. On rappelle les références de votre ouvrage, donc les classiques du cinéma bis sortis en 2009, réédition en 2013 aux éditions Nouveau Monde. Hein.
C'est bien.
C'est bien une belle édition qu'on a envie de découvrir également. En plus d'avoir été acteur sur un film de Norbert Moutier, vous êtes évidemment un grand connaisseur de ce cinéma bis. Permet notamment de voir comment, je dirais, de mesurer la bonne santé d'un cinéma national. Est-ce que pour vous, ça c'est quelque chose de sain, le cinéma bis, dans une filmographie nationale?
Oui, c'est très vital, puisque les médias classiques n'en parlent pas, ou généralement d'un ton très méprisant. Donc c'est bien d'avoir une presse plus ou moins parallèle ou des voix dissonantes, et c'est toujours dans cet esprit que j'essaye d'écrire, quoi, d'informer sur les films, outre la qualité, qu'ils soient bons ou mauvais ou navrants, comme un certain site aime à le clamer.
Ouais, effectivement, c'est pas les meilleurs qualificatifs, quoi. Effectivement. Alors justement, vous aviez rencontré, en plus de connaître Norbert Moutier, il y a également un terme qui va revenir en lien entre vous deux, c'est évidemment le terme de fanzine, qui évoque finalement une époque des années 80-90, il y a toujours des fanzines à notre époque, mais est-ce que le fanzine est forcément lié à la nostalgie d'une époque où on essayait de faire vivre une série B, hein, du cinéma de genre dans un pays comme le nôtre, ou si ça n'a jamais été facile
non,
de le faire?
Non, pas du tout. Le fanzine, il correspond à une économie, hein. C'est-à-dire que dans les années 80, si on voulait prendre la parole d'une façon indépendante et s'auto-éditer, ben on faisait un fanzine.
D'accord.
Parce qu'il n'y avait pas le net, il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'était le médium, et d'ailleurs des fanzines, il y en a dans tous les domaines, hein, de la philatélie au cinéma bis.
Et c'est vrai que le cinéma bis, bon, c'est celui qui nous amène vers Norbert Boutier. Il y en avait également un autre sur la BD, où il cherchait des BD un petit peu disparues, qui manquaient d'exposition. Est-ce que le cinéma de genre, finalement, c'est le cinéma qui gagne à être connu, mais qui n'a pas forcément, pour s'exprimer, besoin d'une immense exposition? Je ne sais pas si cette question est parlante, mais c'est quelque chose qui me plaisait en découvrant les films de Norbert.
Oui, c'est-à-dire que le cinéma de genre, il s'auto-distribue, il s'auto-finance, c'est-à-dire qu'une fois que le film a fait sa carrière, il disparaît. C'est une économie parallèle qui n'a pas besoin de support, puisque en général, les gens qui produisent ont déjà leur circuit et alimentent en priorité leur circuit, et si par miracle ils arrivent à le vendre ailleurs, c'est que du bénéfice, quoi.
Et je voulais vous demander finalement en quoi ces films-là et sa filmographie, et puis on peut l'étendre également au cinéma bis en France, matérialisent bien la passion qu'il faut avoir pour faire de la série B en général, et en particulier dans un pays comme la France qui a jamais été très friand de ça, hein. Je pense au circuit distribution notamment.
Oui, c'est-à-dire que en France, il y a une production d'indépendants, et c'est généralement moi je parle des années 40-50, hein, de l'après-guerre, où ce sont des gens qui sont sortis, qui sont pas sortis du sérail, c'est-à-dire des gens qui étaient pas établis comme sortis des écoles de cinéma ou de la noblesse, puisque ce qu'on oublie souvent, c'est que en France, le cinéma, c'était une récréation de riches, hein. Il y avait eu beaucoup de monsieur deux qui s'amusaient. Toi, tu sais pas quoi faire, mon fils. Bah, tiens, voilà un peu d'argent, va faire un film. Mais après-guerre, ça a changé, où il y a eu des gens qui ont commencé à acheter des cinémas et qui se sont dit, finalement, pourquoi acheter des films aux autres ? Moi, je peux le faire moi-même. Mmh. Et c'est le cas de quelques indépendants qui se sont débrouillés. Mais sur ce même modèle, il y a des gens aussi qui ont acheté, qui ont construit des circuits, notamment en province, qu'on oublie un peu souvent sur Paris. Mmh. C'est que la distribution des en France, elle était faite par région. Et il y avait des sous-distributeurs régionaux. D'accord. Qui avaient leur propre circuit et qui diffusaient des fois leurs propres films. On parle souvent d'un réalisateur qui faisait des films avec des jeux de mots, qui a fait le Congrès des Belles-Mères. Émile Cousinet. Ben, Émile Cousinet, il a monté des studios à Bordeaux et il a distribué ses films en région bordelaise avant de les distribuer sur Paris. C'est un exemple. C'est-à-dire que en France, on oublie souvent le cinéma bis parce que le peu de revues de cinéma des années 50-60 parlait plutôt du cinéma bis américain, qui était celui qui dominait évidemment. On a tendance à oublier un peu tout ça, mais aussi parce que les films ont disparu physiquement, alors que les séries B américaines ont survécu.
C'est vrai qu'en voyant notamment au Groff, qui est le premier film tourné en Super 8, en long métrage, déjà un projet totalement dingue de faire un long métrage en Super 8, et c'est ce qui fait qu'il est séduisant. Comment dire, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, parce qu'on voit beaucoup de films de série B, et on voit que souvent c'est dans ces marges-là qu'il y a beaucoup d'inventions qui sont très utiles pour le cinéma, je dirais plus grand public, en tout cas, ou grand spectacle. Il y a évidemment plein de parallèles qui sont à faire avec d'autres réalisateurs emblématiques de la série B, alors John Carpenter, Hunter, toute proportion gardée, mais je voulais vous demander si finalement ce qui fait la beauté du cinéma de série B et de ses cinéastes, c'est le côté un peu, je dirais, loser magnifique. C'est des gens qui n'ont jamais tout l'argent qu'il leur faut, tous les moyens qu'il leur faut, ou la bonne trajectoire. Est-ce qu'il y a aussi ça de séduisant dans le cinéma de série B ?
Oui, c'est sûr que de par l'économie, par le budget réduit, il faut rivaliser en imagination. Mais là, je me permets une parenthèse. Norbert, c'est même plus du cinéma bis, c'est du cinéma Terre 15. c'est un univers parallèle et c'est ça qui m'a séduit et qui, je pense, a séduit la plupart des gens qui ont collaboré à ces films. C'est que ça ressemble à du cinéma. On joue devant une caméra, mais ce n'est pas du cinéma. C'est du Norbert Moutier. Il faut vraiment différencier et là, c'est vrai qu'effectivement, on peut parler de passion totale, puisque je pense pas que Norbert était totalement dupe de ce qu'il faisait, puisqu'il disait toujours « moi, j'ai jamais les moyens ». Il n'a jamais cherché à monter en grade, il a toujours cherché à faire ce qu'il avait envie de faire, tout en sachant très bien qu'il y avait de fortes chances que ce n'est aucun vrai débouché commercial, parce que c'est pas avec les 50 ou 100 cassettes qu'il a dû vendre de chacun des films qu'il a autodistribué qu'il a gagné de l'argent. Donc le motif là, il est évident que il était nourri entièrement par sa passion.
Est-ce que vous pouvez nous dire un élément, un exemple ou un épisode du tournage auquel vous avez participé chez Norbert Moutier?
Le tournage s'est passé très bien passé à l'époque, mais c'était le seul film qu'il a tourné en Super 16, je crois, si D'accord. mes souvenirs sont bons, soit en 16, soit en Super 16. Et il avait un caméraman qui était très professionnel, je crois qu'il travaillait à France 3 dans la vie, dans la vraie vie, hein, pas dans la vie de Norbert Moutier. et puis on avait toute une équipe, j'étais aussi ado, donc pour moi tout ça m'avait l'air très sérieux, bon effectivement très bricolé, mais c'était quand même le stade au-dessus des copains qui se rencontrent le mercredi soir avec la caméra Super 8 qu'ils ont acheté avec une bobine c'était déjà un peu le niveau au-dessus, mais les histoires, j'ai d'autres gens qui ont participé à ces films en production vidéo après, hein, qui étaient donc déjà nettement moins organisés et un peu plus sauvages, où ils n'arrêtaient pas de dire on verra ça au montage, on verra ça au montage. Et les gens se retournaient et disaient mais oui, mais t'as fait qu'un plan. Donc on verra ça au montage, non. Quoi, c'était la, c'était le, l'urgence, quoi. On sent que Norbert, pour lui, l'important, c'était de jouer au cinéma, quoi.
Dernière question, parce que c'est vrai que le temps passe vite et on y passerait volontiers des heures, parce que c'est sans dire long sur tout ce qui nous amène à aimer le cinéma à tout niveau. Hein. Vous avez été documentaliste sur les émissions cultes cinéma de quartier, quartier interdit, notamment avec Jean-Pierre Dionnet. Est-ce que vous pensez qu'à une époque comme la nôtre, finalement, où on est dans la nostalgie des années 80 qui revient énormément, mais il y a aussi quelque chose qui peut matcher avec la trajectoire de Norbert Moutier, c'est le fait que aujourd'hui, n'importe qui a de quoi filmer finalement, à un studio portatif avec les smartphones à portée. Est-ce que vous pensez que cette trajectoire-là peut parler à l'ensemble des vidéastes à demain qui prendront leur smartphone pour faire des petites productions ?
Alors oui, tout à fait. Dans l'esprit d'une autodistribution et de circuits parallèles, oui, c'est ce que font beaucoup de gens, etc. Mais la distribution et le cinéma commercial, non, puisqu'il passe par des circuits établis, syndiqués, évidemment, reconnus par les instances. C'est un départ, mais ça peut être aussi une impasse, dans le sens où tant qu'on sait que ça ne pourra peut-être pas aller plus loin, il faut continuer à développer. Et c'est beaucoup plus dur. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des courts-métrages en 16 ou qui sont lancés un peu dans l'autoproduction et qui n'ont jamais réussi à passer la grande porte, ou alors elle s'est entrouverte, mais elle s'est refermée très vite.
D'accord.
Alors oui, les moyens maintenant existent pour que n'importe qui puisse se permettre, mais la distribution derrière n'existe pas. Elle est fermée, elle est hermétique, elle ne marche que pour un certain niveau de production.
C'est un plaisir, merci beaucoup Lucas. C'était très instructif sur cette carrière et puis la passion qu'on a tous pour le cinéma.
C'est moi qui vous remercie et j'espère vous écouter très bientôt.
Patrick Juillard est journaliste à Europe 1 et Radio Foot International notamment. Avec Norbert Moutier, il a collaboré sur son fameux fanzine Monster Beast qui est né en mars 1979. Avec lui, on échange sur la façon de le construire, mais également sur la série B française et puis ses rapports avec Norbert Moutier et évidemment les films qui ont pu porter cette personnalité très attachante.
Moi, celui que je préfère de Norbert, enfin pour moi, ce qu'il a fait de mieux, c'est Hémophilia, là, le court-métrage avec la petite vieille qui attaque les gens dans les couloirs du métro, là, avec une musique minimaliste électronique. Ça, c'est vraiment très, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est bien fait, c'est, il y a vraiment tout un univers et les longs métrages, bon, c'est un peu plus difficile parce que le manque de moyens, l'écart entre les ambitions et le manque de moyens est important. Pour moi, en fait, je veux vraiment que on comprenne que les films, en fait, qu'il a tournés, c'est un moment de sa vie qui était beaucoup plus dédié au cinéma tout entier, et pas juste au tournage, en fait, à la mise en scène. Ouais. Et il a aimé le cinéma de toutes les manières possibles, en fait, et c'est ça qui est important.
Nous, ce qui nous a marqué, en fait, c'est vraiment l'idée de fanzine. C'est à la fois un terme qui est très actuel parce que ça en dit long sur la passion du cinéma et puis ça a fait français un peu à des époques un peu reclus, pré-réseaux sociaux on dirait, qui est marqué énormément de nostalgie. Comment on peut résumer cette idée de fanzine où on vient passer des informations sur des films quasiment de main en main? Est-ce que ça ressemble à cet âge-là, l'âge du fanzine des années 80-90?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous le dites bien, c'est une époque d'avant les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, pour ce qu'on appelle les millennials, quoi, les jeunes qui sont nés avec Internet, c'est simple, on va sur Google, on tape le sujet de sa recherche et l'ordinateur nous sort parfois des dizaines de pages avec des liens où on peut vraiment trouver tout presque instantanément. À l'époque de Norbert, quand il a lancé Monster Beast, tout ça n'existait pas et rassembler des informations sur des domaines du cinéma fantastique ou du cinéma de genre au sens large, c'était moins commode et lui, c'était le Google de l'époque en fait, Monster Beast, c'est-à-dire sur un thème précis où bah, à l'époque c'était pas sur des thèmes précis, c'était une sorte d'assemblage et ensuite il a d'assemblage d'actualités diverses ou de sujets divers et ensuite il a fait des numéros unitaires donc sur des thèmes précis, des cinéastes ou des genres cinématographiques, bah c'était il rassemblait toutes les connaissances qu'il avait et il avait une mémoire exceptionnelle, une grande érudition, il connaissait vraiment des détails précis sur les films, il passait beaucoup de temps à les revoir, Il me racontait que dans une journée, il pouvait arriver à avoir 7 ou 8 films. Et ça, il a dû le faire pendant 3-4 jours par semaine pendant des dizaines d'années. Donc forcément, quand en plus il prenait des notes et il gardait beaucoup de journaux, d'articles, mm-hmm. de coupures de presse, ça lui, au final, il avait une vision assez encyclopédique de son sujet, du cinéma, et pas uniquement du cinéma dit bis, parce que lui-même, il n'était pas fan du mot, mm-hmm. mais il pouvait parler d'un vieux film de Joseph Losey, comme il pouvait parler d'un film d'Hugo Frégonès des années 50, un D'accord. cinéaste oublié. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment une vision très très large du cinéma et surtout une mémoire exceptionnelle, je trouve.
C'est vrai que avec les intervenants qu'on a jusqu'à maintenant qui nous parlent de Norbert Boutier, c'est qu'il y a l'idée d'échapper à la classification, quoi. Série B, c'est cinéma bis, c'est quelque chose qui échappe pour ces films en tout cas à ça. Et c'est également la façon de faire un fanzine, c'est-à-dire qu'on cherche à transmettre ce qu'on aime bien. Comment on construisait de cette façon-là, j'imagine.
Oui, alors il y a quelque chose de très artisanal dans ce qu'il faisait. Même les fanzines sur la fin, dans les fins des années 2000, début 2010, il a continué à les fabriquer vraiment à la main avec un cutter, des ciseaux et de la colle, hein, en faisant les pages une à une. Et moi, je peux en parler bien puisque j'avais rédigé le fanzine spécial Luc Miranda qui était paru en 2010. Il m'avait simplement demandé de taper mon texte. On s'était mis rapidement d'accord sur le sommaire, et ensuite il m'avait demandé de taper mon texte en colonne, en demi-colonne sur des feuilles A4 pour pouvoir ensuite coller les textes au format du fanzine qui était sur deux colonnes par page. D'accord. Et ça montre bien que c'était vraiment quelque chose d'artisanal, donc c'était un travail à la fois de mémoire, un travail de conception intellectuelle et un travail manuel aussi. Mmh. Et il y avait toutes ces dimensions-là, et c'est un peu aussi finalement les dimensions du cinéma, ça, puisque les différents métiers du cinéma, il y a des métiers intellectuels, il y a de l'écriture, de la réflexion, mais il y a aussi du travail manuel. Et il y avait tout ça dans un fanzine, donc ça me rappelle un peu un cinéaste qui ferait tout, qui ferait scénariste, acteur, chef opérateur, qui s'occuperait de la logistique, d'amener le matériel. Donc le fanzine, c'était un peu conçu comme ça, et c'est ce qu'il faisait lui-même quand il tournait ses films, puisque il s'attribuait beaucoup de rôles différents, et c'était l'homme à tout faire de ses films, et sans lui, il n'y aurait jamais eu de film.
C'est vrai que finalement, en retraçant un peu cette carrière-là, il devient un personnage du cinéma, hein, puisque là, il y a vraiment le côté donc la personne qui va au bout de ses idées. Donc bon, là, on l'a dit dans notre émission, mais il fait des études pour être comptable, il échappe à ça, finalement une carrière qui est toute faite et qui est finalement assez, je dirais, tranquille. Pour faire du cinéma, il est au bout de ses passions, il s'en moque complètement du regard des autres et il fait du cinéma. Il y a l'idée effectivement de faire le fanzine, et puis il y a le magasin, quoi, une sorte de caverne d'Ali Baba parmi tout. Enfin, c'est l'image qu'en ont tous les interlocuteurs qui nous en ont parlé jusqu'à maintenant. Comment on pouvait la décrire, décrire ce magasin?
Ben moi, j'ai découvert ce magasin un jour de 2001. J'avais lu sur Internet qui naissait et qui se développait, les sites de cinéma bis commençaient à apparaître, et j'avais lu qu'une des meilleures adresses à Paris pour trouver des VHS ou des revues ou des bouquins de cinéma, c'était la librairie de Norbert, donc Square Montholon. J'y suis allé un samedi après-midi et j'ai tout de suite vu que c'était un endroit où on pouvait vraiment faire des découvertes, où c'était pas bon, ça ressemblait à un certain vidéoclub. Sur l'apparence, il y avait pas quelque chose, c'était pas extraordinairement différent de certains vidéoclubs, mais la manière dont Norbert était disponible et avait plaisir à discuter avec les gens, c'était unique, quoi. Et finalement, il pouvait nous vendre un film en nous en parlant, alors que nous, au départ, on n'avait pas spécialement envie de louer cette cassette-là particulièrement. Et on y revenait parce qu'on savait qu'on prenait plaisir à passer un moment et qu'on rencontrait aussi des gens comme nous dans son magasin. Donc c'était un lieu de rencontre aussi. Et moi, j'ai certains de mes amis qui sont encore aujourd'hui mes des bons amis à moi, je les ai rencontrés chez Norbert. Donc il y avait ce côté un peu organique, disons, des choses, alors que bon, la cinéphilie, parfois, c'est, on imagine le mec avec ses 400 DVD dans une chambre de bonne. Bon, Norbert, il nous permettait de mettre de la chair un peu sur notre amour du cinéma en faisant des rencontres, en partageant nos passions, en échangeant. Et lui, c'était comme ce qu'on appelle un passeur un peu. C'est quelqu'un qui nous donnait des idées, qui attirait notre attention sur certains cinéastes ou certains films. Et voilà, donc c'est quelqu'un. Alors effectivement, c'était quelqu'un qui avait un petit peu arrêté de regarder des films, qui se concentrait plutôt sur le rétroviseur, mais il était quand même attentif à ce qui sortait encore. Hein, il pouvait parler de Haute Tension, d'Alexandre Aja, ou de films restants, quoi. Hein, mais c'est vrai qu'il allait plus beaucoup en salle, mais il suivait encore. Mais c'est surtout pour le cinéma du passé. C'est la cinéphilie, c'est ça. C'est de, on a vu un film et on va essayer de trouver des films qui l'ont inspiré, et ensuite on déroule la pelote, on trouve d'autres films, et c'est l'esprit d'escalier qui fait le reste, quoi. Et Norbert avait vraiment cet esprit-là, quoi.
Ce qui nous a également permis de comprendre l'élan énorme de sympathie qu'il y a eu sur Paris, sur Orléans, et puis auprès de tous ceux qui l'ont connu via les réseaux sociaux, c'est le fait qu'il cassait des barrières qui existaient dans le cinéma. Alors, je parlerai pas de snobisme, il était également très accessible. Alors certes, c'était pas Spielberg, mais il y avait une idée de transmettre le cinéma et de vraiment être dans un côté très populaire au bon sens du terme dans ce côté-là.
Ah oui, absolument, il n'y avait pas de barrière en fait. Et on dit souvent, on l'associe souvent au genre fantastique horreur, parce que c'est vrai que son fanzine et son magasin ont vraiment pris de l'ampleur à cette époque-là, à la grande époque des festivals d'Avoriaz ou du festival du film fantastique de Paris. Mais Norbert, à la base, aimait beaucoup d'autres genres, bien plus. Et je parle du western, je parle du film noir des années 50, des films américains, le polar également. Il était moi qui suis, c'est mon genre préféré, le polar. Hein, et avec Norbert, j'avais un interlocuteur exceptionnel. Enfin, il avait une connaissance du film policier français, des films de Bronson, enfin de tout le polar, le polar italien également. Donc c'est quelqu'un qui avait pas de, il pouvait s'adapter à sa clientèle. Moi il savait qu'on allait parler surtout polar, thriller. D'autres de ses clients, ils allaient plus parler de Jean Rollin et de Jess Franco. Sa clientèle un peu plus âgée, c'était plutôt le western des années 50 que lui qu'il avait fait venir à la passion du cinéma lui-même. Donc il avait vraiment avec ces gens-là d'autres liens qu'avec nous. Et voilà, c'est effectivement, je suis d'accord avec cette idée qui cassait des barrières. Et on l'a trop, ces films l'ont trop réduit au gore en fait.
Oui, c'est vrai.
Mais finalement, le gore, il en appréciait le côté libre, le côté un peu fou, le côté grands effets avec des petits moyens qu'on retrouve dans Ougrof, hein, par exemple.
Irrévérencieux aussi, peut-être. Aussi.
Toutes les limites du film, c'est un film qui fait de l'effet quand on le voit, parce que ben avec peu de moyens, on arrive à impressionner les gens. Et mais le Norbert, sa passion du cinéma, elle se réduisait pas au gore. Hein. Il y avait beaucoup d'autres choses. Le gore, c'était juste le genre qui a émergé au moment où il a lancé vraiment son activité. Mais il y avait vraiment d'autres choses. Et voilà, je pense qu'il faut pas le caricaturer comme un pape du gore à la française. Alors, ses films, il y a en partie de ça, même s'ils sont pas tous gore, hein. Opération Las Vegas, c'est pas gore, par exemple, mais Norbert, c'est tout un univers de cinéma. Simplement, lui, il fallait que les films soient pas ennuyeux, que ça bouge, que ça évade. Bon, il regardait pas Jean-Luc Godard, hein. ça c'est vrai. Il les avait vus, les films, hein. Il savait de quoi il parlait, mais c'était pas, enfin en tout cas ceux du début, c'était pas son truc.
D'accord.
Mais dans un registre très large de cinéma, un cinéma qui impressionne un peu, un cinéma qui laisse pas indifférent, bah, qui interpelle, oui, il pouvait être très éclectique.
Très bien. Alors bon, le temps passe vite et c'est vrai que on est très heureux en fait de passer.
Vous allez devoir couper.
Non mais c'est frustrant dans un sens parce que et c'est une bonne frustration parce que ce qu'on disait à tous les interlocuteurs, c'est qu'on pourrait passer des heures indépendamment avec chaque personne à parler d'un personnage comme celui-là et de toute façon, on sait qu'on pourra faire plusieurs émissions à son sujet sur la série B française. Je voulais vous demander en ouverture en fait et en conclusion pourquoi on doit souhaiter, puisqu'on en a parlé, pourquoi on doit souhaiter d'autres personnages comme Norbert Moutier, alors à la fois dans le cinéma tout court, mais je dirais également dans le cinéma français qui souffre évidemment. Alors on a parlé de la série B qui est pas seulement ce qu'il a fait ou ce qu'il a aimé, mais je dirais de la série B dans le sens où elle démontre en tout cas la passion de beaucoup de vidéastes amateurs qui feront peut-être pas carrière, mais qui sont fous de cinéma et qui n'ont rien à faire et qui en font quand même finalement. Je vais résumer en vous disant comment on peut souhaiter d'autres Norbert Moutier à notre époque très numérique qui sont passionnés et qui transmettent ça. Est-ce que vous voyez un avenir où des personnages comme ça peuvent encore éclore?
Oui, le numérique, ça peut être une clé pour la future naissance d'un nouveau Norbert, parce que on n'a plus la notion d'acheter de la pellicule et de faire attention à ce qu'on gâche ou à ce qu'on ne gâche pas quand on filme. Le numérique, on peut filmer plus facilement. Hein. C'est par définition, il n'y a pas ce côté-là de physique qui limite les choses. Et donc, je pense que oui, on peut espérer voir d'autres Norbert. Il y a des films récents qui ont un petit côté artisanal, Caliber 9 par exemple, un film qui est inspiré de l'affaire Baudis, un film d'un cinéaste toulousain, c'est un petit peu dans cette veine-là. Le film, un polar à petit budget qui s'appelle Voyoucratie aussi, qui est adapté d'un roman, mais qui a un petit côté petit moyen, grandes idées. Et je pense que oui, on peut espérer voir d'autres Norbert Moutier, parce qu'aujourd'hui, le cinéma français, c'est un cinéma subventionné. Il faut rassembler des budgets, il faut avoir des conseils régionaux, des conseils généraux qui vous aident en échange de filmer sur leur terre. Bon, tout ça, c'est un parcours du combattant. Et je pense qu'un autre cinéma plus libre, sans ces contraintes-là, est possible. Je pense aussi au film de Jack Tyler, Villa Captive, qui a un film à tout petit budget tourné à Miami, qui pourrait s'inscrire aussi dans cette veine-là, même si c'est sûrement plus professionnel que ce que faisait Norbert, techniquement parlant, mais je pense qu'on peut assister à la naissance d'autres, d'autres cinéastes un petit peu de cette veine-là. Moi, je le souhaite en tout cas, parce que le côté un peu trop lisse du cinéma français est lissé par le budget, parce qu'on considère maintenant qu'il y a un budget minimum en dessous duquel on ne peut pas tourner un film. Norbert, il s'inscrivait en faux contre ça. Il se disait, on peut tourner un film. Ce qui compte, c'est d'en avoir l'envie et d'aller au bout de son idée. Et voilà. Et moi, je ne me moquerai jamais des films de Norbert. Ce qui l'avait un petit peu vexé, c'est que certaines personnes avaient pris ses films à la farce, à la rigolade.
Même au Groff, il n'y a pas échappé d'ailleurs quand il est
sorti. Voilà. Et l'écart entre les ambitions et les moyens peut faire sourire, mais je trouve ça cruel de le prendre à la rigolade et de dire que c'est un nanar. Le terme nanar, déjà, c'est un peu contestable, mais pour moi, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et bon, finalement, moi, je pense que Norbert a été un grand serviteur du cinéma bien au-delà de ses films. Hein, c'est ce que je veux garder de lui. C'est toutes les, tout ce qu'il nous a fait découvrir, toutes les passerelles qu'il a créées entre nous, entre différentes cinématographies. Voilà, donc c'est plus ça que je retiendrai au final que les films en eux-mêmes, même si je les aime beaucoup aussi, mais voilà, pour moi les films, c'est une petite facette de quelque chose de bien plus complexe.
Alors, en tout cas, on était très heureux d'en parler avec vous.
Pareillement.
Et on continuera évidemment, hein, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de matière pour mettre en avant ces personnages-là, comme Norbert Moutier, parce qu'il y a Norbert Moutier, il y en a d'autres, mais on est en tout cas très content de mettre en avant cet homme-là, qui effectivement, même en dehors de ses films, a fait beaucoup. Et en tout cas, on vous remercie. Hein.
C'est moi.
Parmi toutes les casquettes qu'a porté Norbert Moutier dans sa carrière, dans le domaine du cinéma, mais également dans le fait de changer d'orientation après des études qui l'ont mené à devenir comptable, eh bien, il y a évidemment le métier de libraire qui est souvent rappelé par nos intervenants et le fait
que notamment dans son magasin on pouvait absolument tout trouver, les derniers bouquins, les films les plus improbables, mais également toutes les lectures qui pouvaient amener à découvrir d'autres horizons. Si, alors donc bonjour Patrice Véry, on vous a aujourd'hui au téléphone, vous avez rencontré Norbert notamment parce que vous avez pu travailler dans sa librairie, la BD Cine à Paris dans le 9e. Vous êtes président d'Extra Lucide Film, ce qui nous intéresse beaucoup ici pour ce questionnaire-là, puisque président de Prod, vous avez également un regard sur la série B et puis le genre de film qu'a mis en avant Norbert.
Exactement, on peut même dire que Norbert Moutier a beaucoup compté pour moi dans le fait que quand j'ai fait un remplacement, en tout cas je me rappelle, c'était au mois d'août 97, donc il y a très longtemps, parce qu'il était parti aux États-Unis pour son film Brooklyn Cop. Mmh. Et du coup, en fait, j'ai rencontré Jean-Pierre Dionnet comme client dans sa boutique.
Oui, d'accord.
et du coup, en fait, j'ai pu converser avec lui, et en fait, quelques mois après, ça a été mon premier boulot, donc après j'ai travaillé pendant 7 ans avec Jean-Pierre. Après, j'ai travaillé 14 ans pour Back Film et depuis quelques mois, avec mon associé Karine Back, on a lancé Extra Lucide Film, car je pense qu'il était temps qu'on se lance pour défendre les cinémas qu'on aime. Mais effectivement, donc depuis Norbert, en fait, Norbert a été le catalyseur, en tout cas, sa boutique a été l'endroit, en tout cas, l'étoile, une étoile de ma vie, en tout cas, qui a beaucoup compté.
Ce qu'on dit énormément de témoins sur Norbert Moutier, c'était que c'est également quelqu'un qui passait énormément, qui transmettait, alors évidemment par son fanzine, mais également par sa personnalité, hein, il était toujours dans l'idée de passer ce qu'il avait pu emmagasiner comme expérience.
Exactement, je crois que il faisait partie des passeurs, les gens... des fois traverser Paris ou venir de banlieue exprès pour aller chiner dans sa boutique parce qu'on savait que c'était un des lieux privilégiés, comme pourrait dire François Angelier, des mauvais genres. Il y avait pas que, il y avait des VHS, il y avait du DVD, il y avait de la BD, il y avait des livres, il y avait des jaquettes, enfin il y avait plein de petits trésors et fallait fouiller en fait pour trouver un peu pour trouver la petite perle avec laquelle on serait bien reparti.
Quel regard nostalgique on peut avoir sur cette période-là? Est-ce qu'on est forcément nostalgique quand on pense à un type de magasin comme celui-ci qu'on pourrait finalement trouver dans un film, quoi, qui fait très très caverne d'Ali Baba, ou je dirais presque par provocation la boutique des Gremlins au début, où on trouve des choses qu'on trouverait nulle part ailleurs? On a forcément un regard nostalgique, mais est-ce que c'est seulement de la nostalgie finalement?
Je pense que c'est la vieillesse qui porte la nostalgie.
Eh bien, ils ont dû prendre un sacré coup de vieux.
Donc du coup, après, je crois qu'il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. Les choses sont différentes, mais offrent d'autres possibilités aujourd'hui. Mais effectivement, enfin, si je reprends l'exemple de BD Ciné, je me souviens, le soir avant de partir, je sais qu'il y avait la cave, il y avait cette fameuse cave, en fait. Mm-hmm. Où, du coup, personne n'avait accès, finalement. Et donc, moi, j'avais finalement, en tant que remplaçant, accès... où il y avait plein de trésors, enfin, c'était, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait des cassettes partout, enfin, c'était, du coup, le soir, je prenais 5-10 films, et puis je repartais le soir chez moi pour les regarder, enfin, c'était une sorte de, j'avais accès finalement à tout un rêve, et en plus, finalement, à un rêve presque interdit, parce que personne n'y allait là-dedans, à part Norbert.
Oui, c'est vrai que, il cachait quelque chose de suspect, hein. On l'a même perdu de vue, à un moment. Exact.
Mais du coup, effectivement, ça faisait très, très, très cinéma, en tout cas, quand vous le dites, comme très caverne d'Ali Baba.
Alors, un mot sur la série B française. C'est vrai qu'on nous a souvent dit également que fallait pas le cantonner à ça, que c'était quelqu'un qui connaissait tous les genres de films et qui réalisait ses films dans le gore et la série B et le fantastique, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. Quel regard vous avez sur ses productions à lui? Évidemment, elles étaient marquées par un amateurisme, mais il y avait quand même quelque chose qui montrait une connaissance des genres à ce moment-là qui décollait dans le cinéma international.
C'est vrai, puis à partir du moment où, en tout cas, où ça vient du cœur, de la passion et de la sincérité, enfin, je ne pourrais pas juger négativement, on fait avec ce qu'on peut. En plus, Norbert n'avait pas vraiment cette volonté d'être reconnu, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre. Je me rappelle un petit détail, si vous voulez, avec Cinéma de Quartier, où il y avait des présentations de films à chaque fois, donc il y avait beaucoup d'iconographie. Et je me souviens, à chaque fois qu'on voulait montrer, des fois, une couverture d'un nouveau Monster Beast, enfin, il n'était jamais très, très emballé. qu'il avait toujours peur, du coup, que ça soit trop reconnu, là, que les comptables lui tombent dessus, enfin, les impôts, je ne sais pas. Donc, c'est vrai, il avait cette volonté, finalement, aussi de rester dans son monde et non pas, finalement, de s'étendre trop.
Est-ce qu'il y a un côté, un peu Don Quichotte, dans l'idée de vouloir faire de la série B et de faire de la série B, bon, voire de la série Z, dans les années 80, 90 en France, où déjà encore à notre époque, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés pour distribuer ces films-là et les produire?
Ouais, c'est vrai, comme vous dites, on a l'impression en fait que rien n'a changé finalement, c'est toujours compliqué. Mm-hmm. C'est les années 80, 90, maintenant ou aujourd'hui. Enfin, nous par exemple avec Très Lucide, le film on a sorti Tous les deux du ciel, et on s'aperçut pareil. Enfin voilà, c'est un film de genre français, donc c'est compliqué. Ça serait un film étranger, ça serait plus simple. Il y a une sorte d'intelligentsia française propre à une certaine presse, toujours propre à ne pas vouloir défendre ses films. Et c'est un peu assez français, je trouve, toujours s'auto-taper, ne pas empêcher certaines velléités diverses et contraires, de mauvais genre encore, je me répète.
Nous, c'est ce qui nous a aussi donné envie de défendre la passion qu'exprimait cet homme-là, parce qu'on a commencé à voir une bonne partie de ses films. Il y en a qui nous ont séduits, il y en a un avec l'équipe, évidemment le premier Ogroff qui a une vraie cote au niveau international et puis qui a réussi à être mieux diffusé que les autres puisqu'on le trouve même en VOD. Et c'est vrai que pour ce film-là, on voit qu'on a finalement un peu l'ersatz ou l'avatar d'un film qui aurait pu être abouti. 10 ans avant ou 5-6 ans avant, il y a Toby Hopper qui fait Massacre à la tronçonneuse, auquel il m'a fait penser, évidemment, comme tout le monde. Lui, il a une équipe technique, par contre, et Norbert Moutier faisait tout seul. Donc ça en dit long quand même sur la performance de faire ce type de film en Super 8 et puis l'aventure un peu dingue que ça représentait déjà à cette époque-là. Est-ce qu'il y a un film dans son œuvre que vous vouliez ressortir et mettre en avant éventuellement?
Bah, je dirais après c'est plus un ensemble quoi. Il y a Opération Las Vegas effectivement qui est plutôt sympathique.
Si tu veux qu'on soit sympa, il va falloir être très coopératif.
Les plus connus. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est tous ces monstres, tout ce folklore. C'est l'impression que Norbert, c'est une œuvre à lui tout seul, en fait. Ça englobe un ensemble. Tous ses films, c'est son film, finalement. C'est son œuvre, c'est un peu, c'est sa vie, c'est sa destinée, c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il a voulu faire partager, en tout cas. Et tant mieux que vous soyez là, d'ailleurs, pour lui rendre hommage ce soir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et ce sont des gens qu'on oublie trop souvent et trop vite, alors qu'ils ont eu un rôle, important en tout cas dans la transmission.
Est-ce que vous en voyez d'autres, des personnages comme ça? Oui, j'imagine quoi.
Il y a beaucoup qui sont partis finalement.
Oui. C'est générationnel.
Donc c'est vrai, maintenant je pense qu'on arrive un peu dans... Il y a un petit quand même.
Oui.
Il y a toujours un rôle important en tout cas, et qui travaille aussi sur ces matières qui interdit. Et qui a fait du usine il y a plus de 40 ans, donc avec Vampirella. Mm-hmm. Donc lui aussi, ça, je trouve que c'est quand même un des derniers piliers, en tout cas, d'une certaine transmission de la cinématographie. Bon, bah, Jean-Pierre Dionnet, bien évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que maintenant, faut construire, nous tous, une nouvelle génération, en tout cas, à notre humble niveau, même si on n'a pas vécu tout ce qu'ils ont vécu, et du coup, voilà, on n'a peut-être pas l'étendue des connaissances, ou en tout cas, on l'apprend à travers les livres, à travers les contes qu'on nous raconte, mais on a tous un petit rôle à jouer, en tout cas pour essayer de raconter les histoires comme elles se sont passées plus proches de la réalité. Parler de ciné-BD.
Oui, bien sûr.
Dans ce square Montolon, c'est juste à côté, en fait, il y avait aussi la librairie Le Troisième Œil, qui était tenue par Stéphane Bourgoin, donc c'était la librairie spécialisée dans le polar, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y avait ce square, il y avait ces deux boutiques emblématiques et qui ont toutes les deux disparu aujourd'hui. Voilà, donc c'est...
En conclusion, donc on peut rappeler que vous êtes président d'Extra Lucide Film, donc éditeur DVD plus auteur. Est-ce que voilà, vous avez des sorties, des parutions à mettre en avant pour nos auditeurs dans les prochaines semaines?
Bah là, tout est un peu bloqué, donc...
Oui, enfin, hors confinement, c'est la soirée.
Je pense qu'on va se prendre beaucoup de retard. Bah, oui. Sinon, voilà, on va sortir... Starcrash, on va sortir Death Warm Up, on va sortir via House on Son Retiro, le slasher des années 80,
d'accord,
le premier film d'Oliver Stone, c'est sur la Reine du Mal. On va essayer aussi de travailler dans le cinéma asiatique, on va essayer de trouver des choses non éditées dans le cinéma de genre toujours, mais on va aussi s'élargir un peu au cinéma indépendant plus récent, comme des films comme comme Slacker, par exemple, mm-hmm. et d'autres surprises à venir qui sont en cours de contractualisation. Bon, en tout cas, voilà, toujours cette volonté de, en tout cas, voilà, de défendre les films qu'on aime. Voilà.
Bien, grand merci Patrice Viry pour avoir participé à notre émission.
Merci à vous, en tout cas, et continuez dans ce sens-là. On partagera sur Facebook et on vous défendra aussi.
Norbert Moutier et les films et le cinéma, c'est toute une histoire également. Monteur, producteur, réalisateur, metteur en scène, directeur de la photo, il réalisait tous les postes sur les tournages, déléguait très peu, manque de moyens, et également avait une phrase mythique que beaucoup nous ont partagée, on verra au montage. Ça, c'est une phrase qui est géniale et qui en dit long sur le fait de vouloir toujours avancer sur les tournages. Mais les films, c'est également la connaissance encyclopédique qu'avait Norbert Moutier de beaucoup de genres qui sont évidemment essentiels dans l'histoire du cinéma, le western, le polar notamment, et beaucoup de nos témoins nous en parlent. Alain Jarry, l'ami d'enfance de Norbert Moutier.
Vous pouvez nous parler de la réception d'Ogroff à l'époque qui a un petit peu refroidi Norbert au moment de sa sortie.
Ça l'avait blessé puis humilié parce que Norbert, les films qu'il voulait faire, il voulait que ça ressemble un petit peu à ce que faisait Georges Romero, Lucio Fulci et tout ça. Mm-hmm. Bon, et puis en fin de compte, ça ressemblait plus à du Ed Wood, hein, Ed Wood, le cinéaste américain là qui tout en a un petit budget aussi, hein.
Ouais, devenu légendaire. Ogroff, on en a parlé en préparant l'émission. Moi, je trouve aujourd'hui qu'il a plutôt bien vieilli parce que c'est vrai qu'il a cette patine qui fait qu'on sent le temps sur lui et puis qui marche plutôt bien avec le grain du Super 8. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait eu une réception qui l'a mis mal à l'aise et qui fait que pour la suite de ses productions, il voulait moins d'exposition peut-être.
Ouais, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Il était très 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 blessé. Bon, et puis, mais il a insisté. Hein, il a insisté quand même. Hein. Il a rattaqué donc Hémophilia, mais d'une façon beaucoup plus modeste, hein, déjà sur le métrage. Hein.
Vous avez produit beaucoup de ces films-là, et c'est vrai que on peut souhaiter finalement qu'il y ait un avenir à des cinéastes et des vidéastes comme Norbert Moutier finalement.
Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, parce que bon, bah, ça fait plaisir de voir ça. Bon, bah, on peut s'en amuser, mais bon, c'est quand même que c'est à voir. Ce sont presque des curiosités en fait, hein, mm-hmm. ces films-là. Hein, ouais.
C'est vrai qu'il y a quelque chose en ouverture que je voudrais vous soumettre, c'est que ces films, il faudrait qu'ils échappent à l'étiquette de nanar, parce que c'est vrai que j'ai vu Ogroff donc sur Filmo TV, le film le mieux distribué, oui. le plus oui, visible, oui. on va dire, parce qu'on le trouve en VOD, il a été sorti en DVD, mais il était catégorisé, y compris sur Filmo TV, qui fait vraiment l'honneur de le mettre sur son site, il est catégorisé nanar. Il y a vraiment une forme d'injustice quand même un petit peu là-dedans.
Absolument. Donc on l'appelle film 10, d'accord, hein, ou film Z, mais nanar, c'est un peu méchant, mmh. c'est mesquin.
Vous n'avez pas le droit.
Oh, oui, tout à fait.
C'est
oui,
mon avis, hein, nanar. Et puis bon, Norbert avait lu certaines critiques sur certains sites internet, et là, ça l'avait blessé et ça l'avait même fâché.
D'accord.
Bon, c'était une personne qui se mettait rarement en colère, mais là, quand il disait ça le fâchait. Hein, ça le fâchait énormément.
Hein. Oui, c'est pour ça qu'on les voit avec beaucoup d'intérêt et puis beaucoup de tendresse au bon sens du terme, dans le sens où ça nous donne envie également de prendre la caméra et de continuer à tourner. Un grand merci pour cet entretien-là. Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup. Au revoir, puis à très bientôt, Romaric. Hein.
Alors là, dans la main, j'ai le coffret, un super coffret DVD de Julien Richard Thompson. Richard G. Thompson, pour son nom d'artiste. C'est un coffret qu'on a découvert avec Florian, qu'on avait commencé à regarder en préparant l'émission sur Norbert Moutier. Jurassic Trash, Time Demon 2. Alors des titres évocateurs qui montrent bien encore une fois qu'on est dans la volonté de créer des films de genre français et on l'assume totalement, même avec un manque de moyens, mais une volonté farouche qui arrive à triompher vraiment là pour le coup de beaucoup d'adversité, notamment le problème de distribution. Et c'est très très bien de pouvoir en parler avec Richard Thompson de Norbert Moutier, parce qu'en quelque sorte on peut le présenter comme une forme d'héritier, lui qui réalise et qui continue à monter des projets, donc on l'appelle tout de suite.
Mais répondez enfin !
Oui, allô. Moi, je retiens de Norbert Moutier, que j'ai un petit peu connu, hein, mais pas, j'étais pas un ami proche, mais je l'ai connu dans les années 90. Je retiens surtout un passionné de cinéma, un cinéphile, quelqu'un de très érudit, quelqu'un qui écrivait bien. Et après, parce que je ne faut pas oublier que Norbert a fait des fanzines, a écrit dans des magazines de cinéma même professionnels, donc c'était un pro. Alors, et bien sûr, on parle aussi beaucoup de lui par rapport à ses films. Ses films, en revanche, étaient pas du tout aboutis, puisque c'était des films bricolés.
Oui, tout à fait. Oui.
Avec beaucoup de défauts. Mais par contre, ce qui transparaissait de tout ce qu'il faisait, c'était une passion pour le cinéma, donc avec l'envie de créer et de faire, même malgré le manque de moyens, très très peu de moyens, il bricolait, et c'était vraiment l'artisan dans toute sa splendeur. Avec après des résultats qui n'étaient pas toujours à la hauteur de ce qu'il espérait, mais au niveau de la qualité, mais il y avait une envie sincère, quoi, de créer et de faire des films.
On a relevé dans les films de Norbert Moutier, peut-être que ça va vous parler finalement par rapport à vos propres productions, que dans les films de Norbert Moutier, il est tout le temps présent, enfin très régulièrement présent, un problème de budget. Par exemple, dans Dinosaur from the Deep, il y a un problème d'argent pour financer une expédition. Dans Le Syndrome d'Edgar Poe, son dernier film, La Comtesse et son neveu, ils ont des soucis d'argent. Est-ce que finalement, c'est le nerf de la guerre quand on fait des films de genre, en particulier en France?
Alors, l'argent est toujours le nerf de la guerre. J'avais pas du tout noté que Norbert Moutier faisait référence à l'argent dans ses films. Enfin, j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à cet aspect-là. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que effectivement, il y a des personnages un peu fauchés qui sont en galère et tout dans ses films. Donc même dans La Clinique avec Jean Rollin,
oui,
le film qui s'appelle Trépanator, ils font aussi des petits trafics pour gagner de l'argent. C'est un peu des petits nickelés du gore là dans la clinique du professeur, je sais plus comment il s'appelle, c'est Jean Rollin qui joue. Mm-hmm. Bon, c'est vrai. Alors après, bon, j'avais pas vu tellement. Moi, je pense que Norbert Moutier rendait hommage au grand thème du fantastique. C'est un peu ce que j'avais fait moi aussi d'ailleurs.
Oui.
Après, c'est-à-dire comme on aimait les films d'horreur avec toutes les thématiques des films d'horreur de série B, les dinosaures, les savants fous, les voyages dans le temps, etc., etc. Donc il a refait un peu des films en hommage à ce qu'il aimait au cinéma, quoi. Il a essayé de refaire ce qu'il avait adoré voir à l'écran en parcourant toutes les séries B, parce que Norbert Moutier était quelqu'un de très érudit, qui connaissait par cœur l'histoire du cinéma et l'histoire du film d'exploitation du cinéma bis et le cinéma de série B. Donc il avait envie de refaire tout ça, de rendre hommage à sa manière et refaire, et ça m'intéressait. C'est un peu moi je pense qu'il a voulu se faire plaisir, il se faisait plaisir en revisitant toute l'histoire de la série B, et il la refaisait tout seul, il la refaisait lui-même à sa sauce dans sa cave, parce qu'il tournait énormément de séquences dans sa cave, la cave du vidéoclub librairie, hein, donc c'était un peu une plaisanterie entre les gens qui fréquentaient Norbert Moutier, c'était tout se passait dans sa cave, quoi, mais c'était vrai, hein. Et puis un peu dans la forêt, il allait tourner aussi souvent dans la forêt, dans les bois, parce que ça coûte pas cher comme décor. Donc voilà, mais j'avais pas noté effectivement la thématique argent dans ses films. J'avais noté effectivement plutôt que il essayait de revisiter toute l'histoire de la série B avec tous les thèmes.
Ce qui nous a parlé, et également ce qui nous a fait très plaisir quand vous avez accepté de témoigner, c'est qu'évidemment, nous, on tisse des passerelles forcément entre vos films et puis les siens. Et il y a quelque chose qui nous séduit et qui nous emporte dans la série B, c'est que il y a le côté de tant pis, on va faire un film quand même, tant pis, on mettra des dinosaures, on a envie de le faire, on le fait, quoi. Et il y a ce côté vraiment de liberté qui est fascinant, quoi, finalement. C'est la fin de notre premier épisode, donc de cette rediffusion de notre émission Collector consacrée à Norbert Moutier en ce mois commémorant sa disparition. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réactions sur notre page Facebook Graffiti Cinéma ou sur nos réseaux. Et
on se quitte toujours avec celui qui salue toutes nos émissions avec beaucoup de passion.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça? Hein?